Chapitre 9. Qu'est-ce que fait un disciple? Cela pourrait vous surprendre, mais Jésus n'a pas commandé à ses disciples de faire autant de choses. Sa vision d'aimer Dieu et les autres n'était pas compliquée. Mais ce qu'il leur a commandé de faire est profond et change la vie quand il est mis en pratique. Nous commencerons par le point le plus important d'être un disciple. Les disciples aiment Dieu, leur prochain, et s'aiment entre eux. Nous savons déjà comment Jésus a résumé une vie dédiée à Dieu. Les plus grands commandements étaient « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 46 à 40. Jésus a fait ces choses. Il a dit à ses disciples, « Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Jean 14, verset 31. Comment Jésus a-t-il montré qu'il aimait Dieu, son Père? Il a obéi à Dieu. Il a accompli le plan de Dieu pour lui. Il leur a dit aussi, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Jean 15, verset 9. Jésus a demandé à ses disciples de faire de même, comme le montrent clairement ses commentaires sur les deux plus grands commandements. Jésus est allé plus loin en s'utilisant lui-même comme exemple. Il a dit à ses disciples de s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Quand ils le feraient, ils lui obéiraient et plairaient à Dieu. Il leur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jean 15, versets 13 à 17. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, versets 34 à 35. L'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres sont, d'après Jésus, les caractéristiques fondamentales et indispensables de ses disciples. Jésus n'a pas vu ces deux commandements comme contradictoires sous aucune forme. Ils n'étaient pas en tension. Ils étaient les deux faces de la même médaille. Ils étaient inséparables. Mais comment devons-nous aimer les gens? La plus grande expression de ceci est de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Ceci est ce que Jésus a fait pour nous. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 7 à 8. Autre que cette expression ultime, je ne peux pas trouver une meilleure description autre que 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Cela dit à peu près tout ce qui doit être dit. Voici les caractéristiques de l'amour de ce passage. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Vous allez généralement voir des points dans cette liste sur des cartes lors de la Saint-Valentin ou d'un swag romantique. C'est bien, nous devons aimer notre épouse ou la personne que nous espérons pouvoir devenir notre épouse. Mais 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, ne s'agit pas vraiment de la romance. C'est ainsi que nous devrions traiter les gens en général. Qu'ils le reconnaissent comme amour est sans importance. Dieu le verra et le saura. Certaines de ces expressions doivent être lues dans le contexte des autres expressions dans la liste. Par exemple, l'amour croit tout doit être équilibré par l'amour se réjouit de la vérité. Nous ne pouvons pas isoler l'amour croit tout pour conclure que l'amour croit en un faux ou mauvais enseignement. De la même manière, l'amour espère tout ne signifie pas espérer le mal contre quelqu'un. Mais en général, la liste est facile à comprendre, et c'est un défi quotidien de la vivre. Un point de plus avant de continuer. Il est crucial de réaliser que pratiquement tout ce qui ressort de la vie de disciple découle du premier commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, versets 34 à 35. S'aimer les uns les autres, aimer les gens, est le point central d'orientation pour que les autres choses que font les disciples, prier, jeûner, donner, communion, etc., toutes ces autres choses sont des expressions de ce commandement fondamental. Les disciples prennent soin les uns pour les autres. Cet élément de la vie de disciple découle de s'aimer les uns les autres. S'occuper les uns les autres, c'est être dans une communauté et de la nourrir. À mesure que de plus en plus de gens acceptaient l'Évangile dans les jours qui ont suivi la Pentecôte, Actes 2, versets 1 à 4, ils ont commencé à faire partie d'une communauté en pleine croissance qui allait s'appeler l'Église, dans leur cas, celle de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, ce terme ne faisait pas référence à un bâtiment ou une organisation officielle. Le Nouveau Testament nous dit que l'Église de Jérusalem était manifestement pauvre. Il n'avait pas de bâtiment où se réunir. Il y avait des milliers de nouveaux croyants. Acte 2, verset 41. Verset 47. Acte 5, verset 14. Il n'avait aucun statut légal officiel, de sorte que les croyants ont été persécutés. Acte 3, verset 11, jusqu'à Acte 4, verset 31. Et Acte 5, versets 17 à 42. Si l'Église n'était pas un bâtiment ou une organisation dotée d'un statut légal, quelle était sa signification? Comment les disciples de Jésus se sont-ils soutenus? Ils ont formé une communauté rattachée et dévouée à soi-même. Trop souvent, dans les églises modernes, nous utilisons le mot « communauté » pour décrire quelque chose de plus similaire à un groupe de personnes qui partagent un même intérêt, par exemple, comme des fans d'une équipe de sport ou comme des partisans mutuels pour une bonne cause. Cela est loin d'être la communauté du Nouveau Testament. La communauté de l'Église du Nouveau Testament était une famille. Quelle est la différence entre la famille et un groupe de personnes qui s'unissent pour un intérêt mutuel? Beaucoup de choses. Est-ce que vous vous attendriez à ce que quelqu'un vous donne de l'argent pour payer votre loyer ou votre épicerie simplement parce que vous aimez la même équipe de baseball? Est-ce que vous vous attendriez à ce que quelqu'un vous donne un emploi ou répare votre voiture simplement parce que vous avez voté pour la même personne ou parce que vous avez couru dans la même course de 5 km pour collecter des fonds pour une cause? Bien sûr que non. Mais vous vous attendriez d'avoir de l'aide des membres de la famille, ou du moins, c'est ainsi que la famille, le lien de sang, est supposé fonctionner. C'est ainsi que l'Église primitive était. En voici un aperçu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, il en partageait le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, versets 41 et 47. Ce passage ne décrit pas le communisme ni le socialisme. Il ne décrit aucun système politique. Il n'y a rien dans le passage où un gouvernement ou un État donne des directives ou utilise la coercition pour le comportement que vous observez. C'était entièrement volontaire. Il décrit le comportement d'une famille saine et normale. Les familles répondent aux besoins de leurs membres. Il se trouve que celle-ci est composée de milliers de personnes. Ceci est une image de ce que font les disciples. Ils nourrissent la communauté. Ils s'aiment et ils se soutiennent les uns les autres comme le ferait une famille. Cela signifie partager des ressources. Pour certains croyants, cela peut être de l'argent. Pour d'autres, cela peut être du temps, un service ou une compétence. Fondamentalement, la communauté fait ce qui doit être fait pour ceux qui sont dans la communauté. Vous pourriez vous demander, avec tant de personnes impliquées, comment cette communauté pourrait se connaître les uns les autres. Les croyants se rassemblaient dans le temple, ce qui causait généralement un conflit avec les dirigeants juifs, mais c'était bon pour l'évangélisation, et ils se rencontraient dans les maisons. Acte 2, verset 46, et Acte 5, verset 42. Ceci signifie que l'Église de Jérusalem, la communauté chrétienne d'origine, était en réalité un réseau de plus petites communautés. Les personnes en plus petit nombre au sein de la communauté continuaient la première ligne de soutien et de reconnaissance des nouveaux croyants. Ces communautés étaient les points d'entrée pour les nouveaux croyants. La communauté chrétienne était pour les personnes qui avaient accepté l'Évangile. Chaque communauté participait à la formation de disciples, de ses membres et, de certaines façons, des croyants dans la grande communauté. À quoi ceci ressemblait-il? La première chose qui se passait généralement était de baptiser les nouveaux croyants. Acte 2, verset 41. Acte 8, verset 12 à 13. Acte 10, verset 47 à 48. Acte 16, verset 15. Le baptême était un acte public. Cela était observé par des témoins, par d'autres membres de la communauté, afin d'identifier Jésus et ses partisans. Cela signifiait plusieurs choses, entre autres, que vos péchés avaient été pardonnés à cause de ce que Jésus avait fait sur la croix et que vous aviez maintenant une nouvelle vie. Romains chapitre 1 jusqu'à Romains chapitre 4, 2 Corinthiens 5, verset 17. Le baptême était la première étape pour entrer dans la vie de la communauté. Les personnes baptisées reconnaissaient leur foi en Jésus et les témoins reconnaissaient leur engagement. Lorsque les communautés de croyants se réunissaient, elles découvraient des besoins. Si elles pouvaient répondre aux besoins des membres de leur petite communauté, elles le faisaient. Ceci permettait aux croyants qui rencontraient des besoins d'imiter Jésus. Pour ceux qui étaient aidés, ils apprenaient en temps réel comment vivre comme Jésus. Lorsque les besoins étaient supérieurs à ce que les plus petites communautés pouvaient entreprendre, la grande famille de croyants était là pour aider. C'était pour ce ministère de coordination plus ample que les apôtres, les disciples originels de Jésus qui dirigeaient l'Église primitive de Jérusalem, ont élu des hommes d'aide, des diacres, pour organiser la distribution qui se faisait chaque jour, probablement de la nourriture, à travers la communauté. Acte 6, versets 1 à 7. L'une des pratiques des églises primitives à cet égard consistait à organiser un festin en relation avec le souvenir du repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. Le repas du Seigneur était une célébration commémorative du dernier repas lorsque Jésus a annoncé aux disciples que son corps et son sang seraient bientôt donnés pour eux. Jésus leur a dit que donner sa vie était un accomplissement de la nouvelle alliance. Luc 22, verset 20. La description du festin durant le repas du Seigneur dit la même chose. 1 Corinthiens 11, verset 25. Le repas du Seigneur était un moyen de commémorer ce que Jésus avait fait. Jésus avait dit à ses disciples de le faire en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, verset 24 à 25. C'était aussi un autre moyen de s'assurer de prendre soin des pauvres de la communauté des croyants. Communion de disciples. Communion est un mot néo-testamentaire qui se réfère à l'activité de la communauté des croyants. Prendre soin les uns les autres fait partie de la communion biblique, car lorsque les croyants se rencontrent, les besoins peuvent être discernés et satisfaits. Cela dit, nous avons besoin d'une brève discussion sur la communion pour parler d'autres choses que font les disciples. Plusieurs chrétiens aujourd'hui associent la communion au divertissement communautaire. Bien sûr, faire des activités amusantes ensemble renforce les relations. Jouir de la compagnie des gens crée des liens. Mais ce n'est pas vraiment une communion biblique dans le sens de devenir des disciples. À la base, la différence entre faire des choses amusantes ensemble et une communion biblique est qu'elle ne consiste pas simplement à passer du temps ensemble. C'est beaucoup plus intentionnel. Le but de la communion est ultimement de devenir une même âme alentour de Jésus pour que nous puissions avoir sa pensée en nous. En d'autres mots, le but de la communion est la vie de disciple. Quelques versets de Philippiens démontrent cette idée. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens 1, verset 27. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 1 à 2 et verset 5. Que signifie avoir la pensée de Christ et d'être ensuite d'une seule pensée en tant que communauté de croyants? Est-ce que cela signifie que tout le monde croit les mêmes choses dans tous les moindres détails? Non. La Bible parle d'unité et non d'uniformité. Une meilleure façon de comprendre d'avoir une même pensée est que tous les membres de la communauté poursuivent le même objectif, être comme Jésus. Le but est l'harmonie et non l'unanimité, dans la recherche de la ressemblance du Christ et la coexistence en communauté. Les communautés de croyants primitives s'engageaient dans un certain nombre d'activités afin d'atteindre cet objectif. Ils priaient, jeûnaient, adoraient et étudiaient les Écritures. Puisque toutes ces activités sont des choses que les disciples font individuellement ou ensemble, je parlerai de chacune d'elles séparément au fur et à mesure que nous continuons. Les disciples prient. Dans les termes les plus simples, la prière, c'est parler à Dieu. Mais cela nécessite plus de réflexion. Dieu ne sait-il pas déjà ce que nous pensons? Il le sait. Alors, pourquoi prier? La prière n'est pas pour informer Dieu. La prière est un moyen de montrer à Dieu et aux autres que nous dépendons de Dieu. C'est une façon d'exprimer que nous voulons que Dieu agisse, que nous ne dépendons pas sur nous-mêmes et que nous ne puissions pas trouver une solution nous-mêmes. La prière développe notre propre sentiment de dépendance et de sécurité en Dieu seul. Dans ce sens, la prière est de l'adoration. La même chose est vraie pour la prière en groupe. Dans Luc 11, verset 1, les disciples se référant à Jean-Baptiste et à ses disciples ont demandé à Jésus « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La réponse de Jésus est ce qui est maintenant le fameux « Notre Père » Luc 11, versets 2 à 4, comparé Matthieu 6, versets 9 à 15. Il est important de noter que Jésus n'a pas dit aux disciples quel mot prier dans la prière du Notre Père. Au lieu, il leur a dit « Voici donc comment vous devez prier » Matthieu 6, verset 9. Il leur donnait un modèle. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des formules ou des mots spéciaux pour parler à Dieu. Tout simplement, parler à Dieu. Aussi, la prière ne devait jamais être faite pour le spectacle. Luc 18, versets 9 à 14. Il n'y a rien dans la prière du Notre Père que Dieu ne soit pas au courant. Encore une fois, la prière ne s'agit pas de remplir des lacunes dans la connaissance de Dieu. Au lieu, la prière du Notre Père est associée à des choses telles que l'adoration et l'honneur de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. L'obéissance à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Le pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la requête d'être libérés de la tentation et du mal. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La prière est quelque chose qui est conçu pour aligner nos cœurs avec la Seigneurie de Dieu dans nos vies et pour développer une attitude de dépendance en lui. La Bible est remplie de prières, soit individuelles ou collectives. Si vous les lisez, vous apprenez que la prière est aussi le moyen par lequel nous pouvons déverser nos sentiments envers Dieu, la colère, la peine, l'amour, etc. Dieu n'apprend rien quand nous faisons cela. Nous apprenons à nous soumettre à lui en croyant qu'il est bon et qu'il sait ce qu'il y a de mieux, et à demander de l'aide à Dieu. Jésus a dit que Dieu certainement répondrait dans le contexte de sa sage volonté. En d'autres mots, les réponses de Dieu ne fournissent pas toujours ce que nous voulons. Mais Dieu connaît tout le reste de ce qui arrive dans le parcours de toute expérience humaine et tout comportement, et qu'il travaille sur son plus grand plan. Dieu peut aussi répondre d'une manière inattendue. Les prières de la Bible ne sont pas non plus centrées sur elles-mêmes. La plupart de leurs contenus visent à bénir les autres ou à demander la miséricorde de Dieu sur les autres. Les lettres de Paul incluent habituellement des prières pour ceux à qui il écrit. La prière ne consiste pas toujours, ni même en grande partie, à exprimer nos propres besoins et désirs. Jésus priait fréquemment. Il suivit son propre enseignement que la prière devait être persistante. Colossiens 4, versets 2 à 6. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus n'a pas obtenu réponse à toutes ses prières, ce qui était acceptable pour lui, car il se préoccupait davantage que la volonté de Dieu soit faite. Matthieu 26, versets 36 à 46. Ceci est un rappel important sur la prière. Jésus a enseigné que Dieu répondrait lorsque nous prions. Luc 11, versets 9 à 13. Mais nous ne pouvons pas supposer que Dieu répondrait comme nous le voudrions si nous lui désobéissons ou si nous ne sommes pas en accord avec sa volonté. Jacques 4, verset 3. 1 de Jean 3, verset 22. 1 de Jean 5, verset 14. Les disciples jeûnent. Le jeûne ne peut pas être familier à plusieurs lecteurs. Généralement, jeûner de quelque chose veut signifier de s'abstenir de cette chose. Jeûner de nourriture signifie ne pas en manger. C'est ce genre de jeûne que nous voyons le plus souvent dans la Bible, mais pas toujours. Jésus a jeûné, Matthieu 4, verset 22. Il a présumé que les disciples suivraient son exemple et les avertissait de ne pas être hypocrites quand ils le feraient. Matthieu 6, versets 16 à 18. Le jeûne ne s'agit pas d'attirer l'attention sur vous-même. C'est entre vous et Dieu. Le jeûne ne s'agit pas simplement de s'abstenir de nourriture. Vous pouvez jeûner de toutes sortes de choses dans n'importe quelle manière que vous voulez. Jésus ne recommandait pas de stratégie pour perdre du poids. Il avait autre chose en tête quand il jeûnait et quand il parle de jeûne. Bien que la Bible contienne de nombreux exemples de jeûne, il n'y a pas de règle spécifique. Paul a noté que les couples mariés pouvaient jeûner après le rapport sexuel, 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5, pour accorder une attention particulière à une question de prière. Mais pourquoi le faire? Les paroles de Paul dans 1 Corinthiens 7, verset 5, sur les couples qui sont en accord de s'abstenir sexuellement pendant un certain temps, nous donnent une indication. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Le jeûne est une pratique spirituelle conçue pour nous aider à nous concentrer sur la prière. Comment cela se fait? Peut-être qu'un exemple peut aider. Si vous décidez de jeûner de nourriture pendant une journée, chaque fois que vous avez faim, ceci vous rappelle de prier. Votre jeûne est un rappel et attire votre attention sur la raison pour laquelle vous avez décidé de jeûner. Une autre façon de penser au jeûne est de demander ce qui nous distrait de la prière ou, plus généralement, de notre marche avec Dieu. La réponse pourrait être nos téléphones, la télévision ou un passe-temps. Ce sont toutes des choses que nous pouvons mettre de côté pour un temps. Jeûner de, afin de ramener notre esprit à Dieu et à la prière. Les communautés chrétiennes primitives jeûnaient afin de collectivement se concentrer sur la prière. Actes 13, versets 1 à 3. Actes 14, verset 23. Dans l'Ancien Testament, le jeûne communautaire était également un moyen de montrer une douleur collective pour le péché et la repentance. Jérémie 36, verset 6. Joël 2, verset 12. Les disciples adorent. Vous pourriez penser que l'adoration est facile à définir ou à comprendre. Bien, ce l'est et ce ne l'est pas. Nous équivalons trop souvent l'adoration à ce qui se passe dans un service religieux, principalement la musique. Ce n'est pas ça, l'adoration. Du moins, en ce qui concerne la définition de la Bible, bien que la musique et les chants faisait partie des rassemblements chrétiens. Éphésiens 5, verset 19. Colossiens 3, verset 16. Une autre tendance dans notre culture est de considérer l'adoration comme un sentiment ou une expérience mystique en soi. Cela n'est pas non plus de l'adoration. Il y a plusieurs passages sur lesquels nous pourrions songer, mais examinons-en deux. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 à 2. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, verset 23. Nous avons déjà parlé du premier dans notre discussion sur le fait de vivre une vie sainte. Comment adorer Dieu? Vivre comme Jésus. Ne vous conformez pas au monde, ses valeurs et ses objectifs égoïstes. Cela est de l'adoration. La vraie adoration est donc une affaire de cœur. Le deuxième passage est intéressant pour une raison spécifique. Jésus a dit à la femme que Dieu recherche des personnes pour l'adorer. L'adoration n'est donc pas quelque chose qui provient de nous. Nous sommes invités à répondre à la bonté et à l'amour de Dieu. Comment et où nous faisons cela peut varier. Nous pouvons le faire individuellement, avec ou sans musique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un service religieux. Nous pouvons également le faire d'une manière collective, en communion avec d'autres croyants. Lorsque les croyants se rencontrent dans une communion, ils vont s'exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, versets 24 à 25. En d'autres mots, ils se poussent mutuellement vers l'adoration spirituelle, ainsi imitant Jésus. Ils louent Dieu pour sa bonté, son amour et sa présence providentielle dans leur vie. Actes 2, versets 46 à 47, Jacques 5, verset 13. La louange incluait chanter des chants et faire de la musique. Matthieu 26, verset 30, Éphésiens 5, verset 19, Colossiens 3, verset 16. Mais elle est incontestablement liée à une vie sainte. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, versets 10 à 11. Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que notre adoration spirituelle de Dieu est essentiellement liée à notre façon de vivre. Romains 12, versets 1 à 2. Il ne s'agit pas d'une expérience de 30 minutes à la maison ou dans une église. Il s'agit d'une vie orientée par Dieu et dirigée vers lui. Les disciples confessent leurs péchés et acceptent le pardon de Dieu. L'une des choses que doit affronter un disciple dès le début de leur parcours afin de suivre Jésus est qu'ils auront des échecs. Aucun de nous n'est sans péché comme Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21 à 22. 1 Jean 3, verset 5. Ni pouvons-nous espérer l'être. La Bible est claire sur ce point. Les disciples ont péché. Marc 14, verset 30, verset 68 et verset 72. L'un d'eux, Jean, a écrit plus tard dans sa vie: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 1, versets 7 à 10. Il est merveilleux de savoir, par contre, que notre appartenance à la famille de Dieu n'est pas due à notre performance. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas couvrir notre dette envers Dieu. Il ne nous doit jamais la vie éternelle en raison de tout mérite que nous pourrions penser avoir. Notre performance, ou son absence, ne l'a pas éloigné de nous. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs, Romains 5, verset 8. Par conséquent, nous devons nous rappeler que, puisque le salut ne pourrait jamais être obtenu par la perfection morale, il ne peut se perdre par l'imperfection morale. À la lumière de notre imperfection, le véritable disciple de Jésus doit rester concentré sur la gentillesse et l'amour de Dieu. Regardez à nouveau le passage de la lettre de Jean. Il nous dit exactement quoi faire lorsque nous échouons envers Dieu, soit en faisant quelque chose qui ne soit pas conforme à l'imitation de Jésus, ou en laissant quelque chose de côté qui est conforme à être semblable à lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous péchons et échouons, nous devons le reconnaître. C'est ce que la confession signifie. Nous ne devons pas cacher, excuser ou rationaliser notre péché. Dieu veut que nous l'admettions. Pourquoi? Nous devons être humiliés. Nous devons nous rappeler que le salut concerne ce que quelqu'un d'autre, Jésus, a fait pour nous, et non pas ce que nous gagnons. La confession reconnaît que nous sommes des enfants de Dieu à cause de Jésus. Nous pouvons être sûrs que notre péché ne nous sépare pas de Dieu. Nous ne serons pas expulsés de la famille. Romains 8, versets 31 à 39. Dieu savait avant que nous acceptions l'Évangile que nous avions des défauts. Ce n'est pas quelque chose qui le surprend. Ça ne change pas ce qu'il ressent à propos de nous. Une question évidente est alors de savoir pourquoi nous devrions nous soucier de péché. Les disciples du Nouveau Testament ont rencontré cette attitude chez les gens. L'apôtre Paul l'a abordée dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui, obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Romains 6, versets 1 à 2 et versets 12 à 16. Notez que la Bible ne dit pas « Dieu nous livre », « Ne péchez pas ou Dieu ne vous aimera plus ». Plutôt, la préoccupation est de retourner à l'esclavage de l'autodestruction. Donc, d'un côté, nous péchons, mais de l'autre, nous devons éviter de pécher. Cette lutte était quelque chose que l'apôtre Paul connaissait bien, Romains 7, versets 7 à 25. Mais pourtant, il était un disciple remarquable de Jésus. Le Nouveau Testament nous avertit à plusieurs reprises qu'il y a une guerre en dedans de nous. Nos cœurs veulent suivre Jésus, mais notre être imparfait veut la gratification de soi et la prééminence dans notre façon de vivre. 1 de Pierre 2, verset 11. Jacques 4, verset 1. En cherchant de suivre Jésus, il est une bonne idée, comme le dit le proverbe, de « garder les comptes courts avec Dieu ». L'idée est que, lorsque nous échouons, nous devons être prompts à le confesser et remercier Dieu de son pardon. Nous devrions nous rappeler ce que notre péché a coûté Jésus. Nous devrions continuer à le suivre dans un amour fidèle, reconnaissant qu'il est allé à la croix lorsque nous étions encore des pécheurs, Romains 5, verset 8, afin que nous puissions être ses frères et ses sœurs. Les disciples étudient la Bible. Dans l'Église primitive, les croyants écoutaient l'enseignement des apôtres et étudiaient les Écritures. Paul et d'autres apôtres missionnaires ont fait la même chose quand ils ouvraient des églises ailleurs, Actes 2, verset 42, Actes 4, verset 2, Actes 5, verset 42, Actes 17, verset 10 à 11, Actes 18, verset 11, Actes 20, verset 20. C'était la méthode la plus répandue pour apprendre la Bible durant l'ère du Nouveau Testament, puisque la plupart des gens n'avaient pas leur propre copie de la Bible. Beaucoup de gens ne pouvaient pas lire non plus. Même si nous faisons partie d'une culture littéraire et que nous avons accès à la Bible, nous pouvons bénéficier d'un apprentissage en communauté. Apprendre la parole de Dieu est nécessaire pour suivre Jésus. Comment pouvons-nous autrement apprendre sur le péché, sur les comportements et les attitudes à éviter, et sur la vie remplie de l'Esprit, la façon dont nous devrions nous comporter? La vie nous enseigne à vous dépouiller de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'Esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Lorsque nous faisons partie de la famille de Dieu par la foi en l'Évangile, l'Esprit nous habite. 1 de Corinthiens 3, versets 16 à 17. 1 de Corinthiens 6, versets 19 à 20. 2 Corinthiens 6, verset 16. Éphésiens 2, verset 22. Et nous aide à mener une vie fructueuse. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, versets 18 à 24. Les disciples apprenaient et vivaient la parole de Dieu dans leur vie. C'est ainsi que Jésus a montré qu'il aimait Dieu. Il obéit à la volonté de Dieu. La communauté est une aide importante à cet égard. Dans une communauté, nous rentrons en contact avec des croyants matures qui ont suivi Jésus pendant de nombreuses années. Nous pouvons apprendre comment leur vie a changé lorsqu'ils ont appris à mettre de côté le vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Nous pouvons leur demander des encouragements lorsque nous luttons dans notre quête pour être comme Jésus. Ils peuvent nous rappeler l'amour et le pardon de Dieu. Ils comprennent puisque chaque chrétien lutte pour se détourner du péché et faire ce qui est juste. 1 Corinthiens 1, versets 5 à 10. Même les apôtres ont lutté contre le péché et à faire ce qui est juste. Romains 7, versets 7 à 25. Galates 2, versets 11 à 14. La communauté exprime responsabilité, empathie et encouragement au cours de notre recherche à nous conformer davantage à l'exemple de Jésus. Les disciples souffrent. Celui-ci peut vous surprendre, mais c'est clair dans le Nouveau Testament. Jésus a dit à ses disciples, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jean 15, versets 18 à 20. C'est à ce point où la loyauté croyante est réellement mise à l'épreuve. C'est une chose d'apprendre que nous devons avoir un changement de cœur à l'égard de notre façon de vivre. C'est une autre affaire de suivre Jésus et d'en souffrir. Les apôtres ont souffert pour avoir suivi Jésus. Acte 5, verset 41. Acte 9, verset 16. Acte 21, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 22 à 29. Persévérer dans la foi est un thème récurrent dans le Nouveau Testament. Romains 8, verset 17 à 18. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 7. Philippiens 1, verset 27 à 30. 1 Pierre 3, verset 13 à 17. Pierre, l'un des 12 disciples originaux, avait vu Jésus souffrir et il avait été emprisonné pour sa foi. Acte 12, verset 1 à 19. Il a écrit aux croyants qui avaient été délogés et dispersés sous la persécution. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, versets 20 à 23. Persévérer dans la souffrance exige que nous nous souvenions que l'Évangile ne promet pas la tranquillité dans cette vie, mais une place éternelle dans la famille de Dieu, dans la vie à venir. Ce monde n'est pas notre véritable domicile. Les disciples font plus de disciples. Bien que l'amour de Dieu, de notre prochain et de l'un de l'autre soit l'aspect le plus important en tant que disciples, la chose la plus importante que font les disciples est de former d'autres disciples. C'était la tâche que Jésus avait donnée à ses partisans juste avant de monter au ciel. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle la mission confiée aux disciples. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 18 à 20. Faites de toutes les nations des disciples. C'était une grande partie de l'histoire de la Bible. L'autorité des puissances surnaturelles qui ont asservi les nations a été retirée. Dieu veut ses enfants, ses partenaires, les disciples de son Fils Jésus, de partager partout la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut autant de membres de sa famille que possible. Notre tâche est de raconter la bonne nouvelle, de la vivre devant eux et de les amener dans la famille de Dieu, et leur enseigner à faire de même. Comment faisons-nous cela? Nous partageons notre foi, la façon que nous sommes venus à croire en l'Évangile. C'est incroyablement simple. Premièrement, racontez votre vie avant d'avoir cru en l'Évangile et avant d'avoir accepté le pardon de Dieu à travers Jésus. Les gens aiment les histoires, surtout celles d'autres personnes. Pourquoi? L'histoire d'une autre personne a toujours quelque chose en rapport avec notre propre histoire. Lorsque vous racontez votre vie avant d'avoir compris l'Évangile à quelqu'un, certains détails de votre vie seront familiers à la personne à qui vous parlez. Et peut-être beaucoup de choses de votre histoire entreront-elles en contact avec elle. Deuxièmement, expliquez-leur pourquoi entendre et croire en l'Évangile a été un tournant pour vous. Habituellement, ceci a quelque chose à voir avec le pardon de nos péchés. C'est merveilleux de savoir que, malgré tout ce que nous nous sommes fait et ce que nous avons fait envers les autres, Dieu nous aime et nous veut tellement qu'il nous offre le salut. Puis, racontez l'histoire de la façon dont Dieu a envoyé Jésus pour que nous puissions être pardonnés et avoir la vie éternelle avec lui, ce que Dieu voulait depuis le commencement. Troisièmement, expliquez aux gens l'impact qu'a eu sur votre vie le fait de croire en l'Évangile et d'être pardonné. Expliquez-leur ce que signifie connaître le pardon, l'amour et la promesse de la vie éternelle de Dieu. Expliquez-leur comment cela a changé votre perception de ce que vous êtes et de la raison pour laquelle vous êtes ici. Expliquez-leur comment avoir accepté l'Évangile vous a changé. Certaines personnes voudront peut-être voir la preuve d'un cœur transformé. C'est normal, et c'est une opportunité d'imiter Jésus. C'est l'une des principales raisons de vivre une vie sainte. Jésus a aimé et a servi les gens. Les gens veulent être aimés et recherchent l'authenticité chez les autres. Répondre aux gens comme Jésus le ferait est puissant. Ils vont remarquer. Ils savent quand quelqu'un les aime ou pas. Ils savent quand vous les priorisez avant vous-même à cause du message de l'Évangile. Ce n'est pas tout le monde qui croyait en Jésus. Pas tous croiront en l'Évangile quand vous leur expliquerez et que vous les traiterez comme le ferait Jésus. Mais plusieurs le feront.